RFI, 6h44, en temps universel. Tout de suite, c'est la revue de presse. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Julien Coquel-Rouen, bonjour à tous.
Le tour de la presse africaine avec vous et à la une, l'incompréhension dans les pays visés par le travel ban de Donald Trump.
Cette mesure dévoilée mercredi par Washington prévoit l'interdiction temporaire d'entrer sur le territoire américain à partir de lundi pour les ressortissants de 12 pays, 7 en Afrique, et ce, pour des raisons de sécurité ou parce qu'il est reproché à ces États de ne pas coopérer suffisamment dans la gestion des flux migratoires. Le Tchad fait partie des cibles. Interrogé par le site Tchad Info, le politologue Yaminge Bettinbay estime que du point de vue de l'administration américaine, le Tchad souffre de sa position géographique avec des pays en crise comme le Soudan et la Libye, ce qui le rend vulnérable aux mouvements de terroristes en provenance de ces pays. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a lui immédiatement réagi en annonçant suspendre l'octroi de visa aux ressortissants américains. Le Tchad, en adoptant une posture de résistance, envoie un message clair sur la scène internationale, décrypte Tchad Vision. Malgré ses ressources limitées, il valorise son autonomie et sa fierté nationale.
Les citoyens du Congo-Brazzaville, eux aussi, seront désormais bloqués à l'entrée aux États-Unis.
Une annonce rocambolesque s'étonne les échos du Congo-Brazzaville. De nombreux Congolais se demandent s'il ne s'agit pas d'une erreur nominative, interroge le site, à moins que les services de l'administration Trump n'aient produit des rapports erronés en toute méconnaissance des bases sociologiques congolaises. Le média du Congo B tient à rappeler que le christianisme se pratique majoritairement dans le pays et que les musulmans du Congo sont loin de verser dans l'islamisme radical, encore moins le djihadisme. Le gouvernement congolais s'est exprimé parlant d'un malentendu qui devrait se régler par des discussions.
C'est aussi l'une des plus grandes fêtes du monde musulman aujourd'hui.
La Tabaski, comme elle est appelée en Afrique de l'Ouest, marquée traditionnellement par le sacrifice d'un mouton. Sauf que cette année, cette célébration, elle se déroule dans un contexte économique extrêmement tendu au Sénégal, où l'achat d'un mouton est devenu un luxe que de nombreux familles ne peuvent plus se permettre, s'alarme Afrique.com. Sur les marchés de Dakar, Thiès ou Kaolack, le prix d'un mouton digne de la Tabaski, écrit le site aussi, entre 150 et 350 000 francs CFA, et ce alors que le salaire moyen peine à dépasser les 90 000. Un luxe difficilement accessible, c'est aussi une réalité pour de nombreux Maliens, écrit le site MaliWeb. Les sommes à débourser pour acheter un ovin sont jugées excessives dans un contexte de pouvoir d'achat en baisse, de chômage persistant, où les denrées alimentaires de base ont augmenté de 30 à 50% depuis le début d'année. Alors on fait avec les moyens du bord, souffle Maria Maïga, une enseignante interrogée qui compte partager l'achat d'un mouton avec sa sœur. Certains optent pour des moutons plus petits, tandis que d'autres se tournent vers les chèvres. Les familles s'adaptent et dans l'épreuve, elles prouvent une nouvelle fois leur capacité à célébrer avec dignité et résilience.
Et au Maroc, la fête prend cette année une tournure particulière.
C'est le matin qui rappelle que l'Aïd, comme la célébration est appelée dans le pays, sera différente des autres années. Nous vous en avons encore parlé ce matin sur RFI. Le royaume a en effet recommandé d'annuler le sacrifice rituel pour préserver le cheptel national, mal en point après des années de sécheresse, mais aussi pour soulager les foyers à revenus modestes. En dépit de cela, explique le journal marocain, de nombreux citoyens se ruent sur les boucheries, mais une fois en boutique, le prix de la viande d'agneau alimente le mécontentement de ses consommateurs. Le matin cite une députée de la Fédération de gauche démocratique qui accuse certains grossistes et bouchers de limiter volontairement l'abattage pour créer une rareté artificielle, ce qui accentue mécaniquement la pression sur les prix. Un phénomène aggravé, selon elle, par l'absence d'un contrôle rigoureux de la part de l'État.
Paul Lonsin-Spinelli pour la revue de presse africaine. Merci beaucoup.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et l'info ce matin, ce sont ces bombardements d'ampleur de la Russie sur l'Ukraine après l'attaque ukrainienne spectaculaire de dimanche contre l'aviation russe. Des frappes notamment sur Kiev où elles ont fait au moins 4 morts et une vingtaine de blessés. Hors de la capitale, plusieurs régions font état d'importants bombardements, notamment sur des infrastructures énergétiques ou de transport. Dans la bande de Gaza, au moins 37 Palestiniens tués ces dernières 24 heures par les bombardements israéliens, annonce de la défense civile. civils dans l'enclave, alors que le Hamas se dit prêt à de nouvelles discussions sérieuses en vue d'un cessez-le-feu avec Israël. L'État hébreu qui, dans le même temps, a mené aussi hier soir une vingtaine de raids sur la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, après avoir ordonné aux habitants de plusieurs quartiers d'évacuer. Quatrième série de frappes sur la banlieue sud depuis le cessez-le-feu conclu en novembre dernier. Une coordinatrice de l'ONU sur place dénonce des frappes qui ont ravivé la panique et la peur. Le président libanais Joseph Aoun dénonce une violation flagrante de l'accord international de cessez-le-feu. Le ministre israélien de la Défense affirme qu'il continuera de frapper le Liban si le Hezbollah n'est pas désarmé. Et puis Washington sanctionne 4 magistrates de la Cour pénale internationale, estimant que leurs procédures visant des soldats américains ou l'exécutif israélien sont illégitimes et politisées. Les juges concernés n'ont plus le droit d'entrer sur le sol américain. Leurs avoirs aux États-Unis sont gelés. La CPI dénonce dans un communiqué une tentative manifeste de porter atteinte à l'indépendance d'une institution judiciaire internationale.
Nouakchott 103.3 FM.
Une victoire rapide, confortable et qui a beaucoup surpris. C'était il y a une semaine à Abidjan, l'élection du Mauritanien Sidi Ould Tah au poste de président de la BAD, la Banque africaine de développement, élu avec 76% des voix au troisième tour, alors qu'il en avait fallu le double pour désigner son prédécesseur qui n'avait obtenu que 58% des suffrages. Rien n'était joué d'avance face notamment au candidat zambien Samuel Maimbo. Alors, quelles sont les vraies causes de cette victoire mauritanienne? Quel rôle a joué ou pu jouer le président du pays, Mohamed Ould Razouani? Notre grand invité Afrique de ce matin nous dévoile les coulisses de ce vote, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, en ligne de Nouakchott, au téléphone de Christophe Babouvier.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Le docteur Sidi Ould Tah est le dernier candidat à s'être déclaré, et pourtant il a gagné. Comment vous expliquez ce paradoxe ?
C'est un long processus, donc la campagne et puis le travail diplomatique sérieux a commencé bien avant la déclaration formelle de sa candidature. Étant entendu que le travail qui a été fait l'année dernière par le président de la République pendant son mandat en tant que président en exercice de l'Union africaine a été un peu le terreau fertile sur lequel nous avons construit toute notre stratégie.
Oui, puisque toute l'année dernière, c'est le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Razouani, qui était à la tête de l'Union africaine.
Tout à fait.
On dit que dès le début de cette année, le président ivoirien Alassane Ouattara vous avait dit qu'il serait derrière la candidature du docteur Ould Tah. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit on peut y aller, on peut annoncer sa candidature ?
La décision a été en effet prise par le président en concertation avec beaucoup de chefs d'État africains et en particulier avec son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara, qui est un ami personnel et qui a été un soutien important pour notre candidat.
Dès le début de cette année, oui. Alors, quand le docteur Ould Tah s'est lancé dans cette campagne, il n'était pas le favori. Tout le monde pensait au Zambien Samuel Maimbo, qui avait été vice-président de la Banque mondiale. Comment avez-vous relevé ce défi ?
Pour vous parler franchement, dès le départ, nous n'avons jamais douté qu'il sera élu. Parce que nous avons, je pense, recherché le consensus, essayé de convaincre, mais surtout d'être persévérant. Et surtout, tout ce travail a été fait avec beaucoup d'humilité.
Vous n'avez jamais douté parce que vous aviez déjà fait un travail souterrain et que vous aviez fait vos calculs. Vous saviez que vous aviez déjà un certain nombre de pays avec vous.
Tout à fait. Sous l'autorité directe du président de la République, on a donc essayé de ratisser large tout au long de l'année 2024.
Et le plus gros contributeur africain, à savoir le Nigeria, il était pour qui ?
Il a voté pour le candidat mauritanien.
Dès le premier tour ?
Dès le premier tour. Ça a été décidé depuis très longtemps, depuis février 2025, bien avant d'ailleurs.
D'accord, parce que le Nigeria était très discret sur le candidat qu'il avait choisi. Il ne l'a pas dit jusqu'à la dernière minute.
La discrétion est parfois le bon choix. Je puis vous assurer qu'excepté l'un des plus gros contributeurs qui avait un candidat, tous les autres ont voté pour le candidat Dr Sidi Ould Tah.
Oui, l'Afrique du Sud évidemment a voté pour sa candidate.
Bien entendu.
Mais vous dites que, outre le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc...
Tout ce que je peux vous dire, tous les plus gros contributeurs africains ont voté pour le candidat Sidi Ould Tah. Sidi n'a pas seulement été élu, mais il a été plébiscité.
Alors il y avait donc donc les gros contributeurs qui ont voté pour votre candidat. Et puis, il y a des petits contributeurs. On pense notamment aux trois États du Sahel, Mali, Burkina, Niger. Est-ce qu'ils étaient de votre côté ou pas?
Ils ont voté pour le candidat mauritanien. Il suffit de prendre une calculette. Voilà.
Par quel tour de force avez-vous réussi à être soutenu à la fois par les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, et par la France?
Il n'y a pas de contradiction. De toute façon, c'est des actionnaires. Donc, chacun décide en fonction de ses intérêts.
À quel moment avez-vous reçu le soutien de la France?
Durant le processus que je viens d'évoquer, qui a été un processus long, mais qui a été un processus constructif et efficace de discussions et d'échanges avec l'ensemble de ces pays qui ont voté pour le candidat de notre pays.
Mais est-ce que la France a voté pour votre candidat dès le premier tour?
Je pense, oui, qu'ils doivent avoir voté dès le premier tour. À ma connaissance, oui, ils ont voté dès le premier tour pour le candidat Dr Sidoulta.
Alors, il y a les États-Unis de Donald Trump. Ils ont voté pour qui?
Je ne sais pas, mais nous respectons leur choix.
Ils n'ont pas voté pour vous, au premier tour.
Pas à ma connaissance, mais je ne peux pas répondre à leur place.
On dit que c'est grâce essentiellement aux voix des Africains que le Dr Oulde-Ta a été élu, parce que chez les non-régionaux, les votes étaient plus hésitants. Beaucoup préféraient le Zambien, Samuel Mami. Bon, vous confirmez?
Je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais je sais que dans ces 76%, il y a eu une alchimie entre les pays africains et les non-africains pour donc voter pour Dr Sidoulta et nous en sommes absolument ravis.
Mohamed Salem Ould Merzoug, je vous remercie.
Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier. Bientôt 7h en temps universel et bientôt l'heure d'un nouveau journal. D'abord votre sourire du vendredi, la parlotte de Charlotte avec vous, Charlotte Ntamak. Vous nous expliquez aujourd'hui qu'il y a plusieurs sacrifices et autant de façons de se sacrifier.
Oui, si depuis la nuit des temps, le sacrifice implique la mort d'un animal pour expier les péchés ou pour exprimer le culte à Dieu, certains sacrifices de nos jours sont imposés comme offrandes d'animaux, vivants de préférence, et accompagnés de ce qui accompagnera ces animaux dans les abdomens des pères sacrificateurs offensés.
Même si tu as demandé pardon à genoux, ça ne suffit pas. Tu as offensé ton oncle et voici ta sanction. Une chèvre noire sans tache, un coq blanc, un régime de plantain et une dame jeune de vin rouge.
Dans certains cas, le sacrifice est une offrande pour exprimer un culte à ceux qui aiment bien le culte de la personnalité.
Patron, pardon, acceptez le meilleur mal de toutes mes bêtes que voici. Ce n'est pas la corruption, patron. Je ne pouvais pas venir vous remettre le dossier de mon fils en main propre et venir les mains vides.
Rien ne s'obtient sans sacrifice, comme le dit le dicton. C'est dire qu'il faut savoir faire des offrandes. Mais le sacrifice, c'est aussi savoir renoncer ou se priver de quelque chose. D'aucuns font le sacrifice de leur temps, d'autres de leur nuit, d'autres de leur corps, et j'en passe. Mais avoir le sens du sacrifice n'est pas toujours la chose du monde la mieux partagée, hein?
Avec tout ce qu'il gagne, il n'arrive pas à bien manger parce qu'il veut ouvrir une boutique. C'est quel sacrifice comme ça?
Si le sacrifice de l'animal est dicté par Dieu en remplacement du sacrifice d'un enfant, certains continuent de sacrifier l'humain en épargnant l'animal.
Man, pour les frais de dossier du concours là, mon fils là va d'abord attendre. Je ne peux pas louper la course de dimanche. Quoi? Avec une cagnotte de 50 millions, même si c'est comment, j'aurai au moins 5 chevaux gagnants.
Certains savent se sacrifier pour d'autres au péril de leur vie professionnelle.
Patron, nous voulons une augmentation de salaire, sinon nous démissionnons en masse. Quand tu dis nous avec qui? Avec tout ce que vous voyez là avec moi. Hey, qui? Tous les gens qui étaient derrière moi là sont où?
Et il y a des sacrifiants qui ont tellement le sens du sacrifice qu'ils offrent à l'hôtel du sacrifice leur bienfaiteur.
Patron, c'est Adamou qui a organisé la grève. Moi, je n'étais pas là.
Ou fait d'un sacrifié celui qui croyait bien faire.
On m'a dit, ce n'est pas qu'on m'a dit, ton ami Alain m'a dit que tu me trompes avec Sidonie.
Pour avoir atteint leur objectif, certains fêtent le sacrifice de ce qu'ils ont sacrifié, d'autres pour atteindre un but dans la vie font le sacrifice de la fête. Et pour ceux qui fêtent le sacrifice à Dieu, bonne fête et à vendredi.
À vendredi, Charlotte, et merci, bienvenue sur RFI si vous nous rejoignez en ce vendredi matin. Le prochain point sur l'info, c'est dans 2 minutes, à tout de suite.
Ce samedi sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Que sont devenus les dragons et les tigres d'Asie du Sud-Est? Ces économies en pleine croissance, Indonésie, Philippines, Malaisie, Vietnam et quelques autres attirent les convoitises. Mais face à la guerre commerciale, les pressions chinoises et américaines, ils sont obligés de s'organiser ensemble.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale.
Je suis Jonathan, je viens de Toronto. J'écoute la journal en français facile parce que je peux apprendre un peu plus sur le monde de la point de vue de la France.
Le journal en français facile avec Adrien Delgrange, c'est tous les jours de la semaine à 16h temps universel sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
De l'Afrique aux Amériques, en passant par la Caraïbe, les œuvres de 150 artistes noirs sont montrées au Centre Pompidou. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale, une exposition, mais aussi un salon de lecture, auquel RFI et la bibliothèque archive Bernard Dadier se sont associés.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain avec le podcast La Relève du Rire, plongé au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.